à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du mercredi 22 mars 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Arnold Butson pour commencer les titres.
Des réductions drastiques de la MONUSCO en République démocratique du Congo seraient jouées avec le feu, avertit la France.
Un non-lieu a été requis par le parquet de Paris dans l'enquête sur les accusations de viol d'enfants centrafricains par des soldats français de l'opération Sangaris.
Le fondamentalisme islamique et la Libye, tels sont les sujets discutés avec le président Déby, a dit Marine Le Pen, candidate à la présidentielle en France, en visite au Tchad.
Les Nations Unies ont approuvé un prêt d'urgence de 22 millions de dollars en vue d'éviter une nouvelle famine en Somalie.
Les États-Unis réunissent aujourd'hui à Washington les 68 pays qui se battent contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La France a mis en garde hier contre des réductions drastiques de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, ce qui équivaudrait à jouer avec le feu, car estime-t-on, le pays est déjà confronté à des turbulences électorales. Anastasie Tudiech.
La MONUSCO, avec quelque 19 000 soldats, est la plus importante et la plus coûteuse mission de maintien de la paix au monde. Les États-Unis sont le plus gros contributeur financier aux opérations de maintien de la paix, à hauteur de 29% d'un budget proche de 8 milliards de dollars. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO, soutenu par la France, doit passer par un réexamen de la nouvelle administration américaine qui veut réduire ses contributions. L'ambassadeur de France aux Nations Unies a mis en garde contre d'éventuelles coupes budgétaires qui pourrait mener à la déstabilisation du pays. Réformer pour rendre plus efficace, oui. Réformer pour briser, certainement pas, a prévenu François Delattre, ajoutant qu'on ne peut pas jouer avec le feu pour un enjeu aussi important. L'année 2017 est considérée par l'ONU comme cruciale pour la RDC, qui doit voir la première transition politique pacifique à travers les élections présidentielles et législatives censées se tenir d'ici la fin de l'année.
La Cour pénale internationale, la CPI, doit prononcer aujourd'hui sa première peine de prison pour subornation de témoins contre l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable d'avoir tenté d'obtenir par ce biais un acquittement dans son procès pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Déjà condamné à 18 ans de prison au terme de son premier procès, Jean-Pierre Bemba avait vu le procureur requérir 8 années d'emprisonnement supplémentaire à la fin de ce procès connexe, le premier de ce type à la Cour.
En France, le parquet de Paris a requis un non-lieu dans l'enquête sur les accusations de viol portées par des enfants contre des soldats français de l'opération Sangaris en Centrafrique en 2013-2014. C'est ce qu'a appris mardi l'AFP de sources judiciaires et proches du dossier. Il appartient maintenant au juge d'instruction d'ordonner un procès ou de confirmer ce non-lieu, l'hypothèse la plus probable, puisqu'aucune mise en examen n'a été prononcée.
Marine Le Pen, candidate d'extrême droite à la présidentielle en France, a déclaré avoir rencontré mardi au Tchad le président Idriss Déby Itno, avec qui elle a évoqué le fondamentalisme islamique et la situation en Libye. Elle doit rencontrer aujourd'hui les militaires français de l'opération Barkhane de lutte contre les groupes djihadistes dans le Sahel. L'état-major de la force est installé à N'Djamena.
La Côte d'Ivoire a évacué hier plus de 150 de ses ressortissants bloqués en Libye après des tentatives de traversée de la Méditerranée pour gagner l'Europe. C'est ce qu'a dit à l'AFP Alassane Diamouté-Nézier, directeur de cabinet au ministère ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui pilote l'opération. Il a salué une opération réussie avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations.
Au Nigeria, le CERAP, une des principales organisations des droits de l'homme, a dénoncé hier des attaques visant le bureau d'Amnesty International à Abuja. Il demande aux autorités d'ouvrir une enquête. Claire Morin-Gibour.
L'attaque et l'ultimatum donné à Amnesty a indigné les militants du Socio-Economic Right and Accountability Project. Lundi, des manifestants ont barricadé le bureau d'Amnesty et demandé à l'ONG de quitter le Nigeria dans les 24 heures. Le CERAP a appelé le président Buhari à lancer une enquête approfondie sur ces attaques apparemment sponsorisé et coordonné et à garantir la sécurité de son personnel. L'ONG nigériane demande au gouvernement de traduire les commanditaires en justice afin d'envoyer un message fort de protection et de soutien à la société civile. Cela fait plus d'un an qu'Amnesty dénonce régulièrement les exactions contre des civils. Selon Amnesty, l'armée nigériane a tué délibérément 350 musulmans d'une minorité chiite fin 2015 et en juin dernier a exécuté des militants indépendantistes du Biafra non armé. L'armée avait annoncé début mars l'ouverture d'une enquête sur certaines allégations, notamment sur des cas d'exécution extrajudiciaire, d'arrestation arbitraire et de torture et disparition forcée à l'encontre de membres présumés du groupe islamiste Boko Haram. Fin février, le ministère de la Défense a accusé l'Association de défense des droits de l'homme d'ingérence dans la politique intérieure et de prendre parti pour des terroristes.
En Somalie, au moins 5 personnes ont été tuées hier après-midi par l'explosion d'un minibus dans le centre de Mogadiscio. C'était peu après l'annonce de la nouvelle équipe gouvernementale, John Lyndon.
L'explosion du minibus à un barrage routier a eu lieu près du palais présidentiel. L'attaque s'est produite peu après l'annonce de la composition du gouvernement du nouveau premier ministre, Hassan Ali Kare. La nouvelle équipe est composée de 26 ministres, dont 6 femmes. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Youssouf Garad, est un ancien journaliste du service somali de la BBC. Le ministre de la Défense, Abdourachid Abdoulahi, ancien gouverneur de la région de Bay, aura la lourde tâche de mettre sur pied une armée nationale capable de lutter efficacement contre les Chebabs. Ce nouveau gouvernement doit être approuvé par le Parlement. Outre les attaques des djihadistes, la Somalie est frappée par une sécheresse aiguë déclarée catastrophe nationale le mois dernier. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 6,2 millions de Somaliens, soit la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont près de 3 millions souffrent de la faim.
Et à ce sujet, les Nations Unies ont approuvé un prêt d'urgence de 22 millions de dollars en vue d'éviter une nouvelle famine dans ce pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis réunissent aujourd'hui les 68 pays qui se battent contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Le président Donald Trump a promis, on le sait, de démolir les djihadistes malgré une coalition affaiblie par des désaccords stratégiques. Précision de Tatiana Mosso.
Il s'agira d'un baptême du feu pour Rex Tillerson. Le secrétaire d'État américain accueille des dizaines de ses homologues, dont les proches alliés européens et arabes, qui s'inquiètent d'un éventuel repli des États-Unis. Le nouveau président américain veut doper le budget de la défense de 10% contre une baisse de 28% des ressources de la diplomatie. Il avait demandé au Pentagone de lui fournir un plan détaillé pour démolir Daesh. Le Pentagone estime que le groupe État islamique a perdu 65% des territoires qu'il détenait en 2014. Cependant, la coalition est affaiblie par des désaccords sur la stratégie à suivre pour reconquérir Raqqa et Mossoul. En outre, la coalition doit répondre à la question du futur statut des territoires libérés en Syrie. Autonomie ou retour dans le giron du régime syrien, la question divise. Aussi, la France s'inquiète que l'administration Trump ne réduise les budgets de la diplomatie, de l'aide internationale et les contributions américaines à des programmes des Nations Unies. Ces inquiétudes sont renforcées par l'annonce que le chef de la diplomatie américaine sera absent de la prochaine réunion de l'OTAN début avril à Bruxelles. Ce devait être sa première occasion de rencontrer ses homologues de l'Alliance Atlantique, mais le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, s'est voulu rassurant. Il a déclaré hier que le lien transatlantique évoluait et se renforçait malgré les inquiétudes suscitées en Europe par les critiques de Donald Trump sur l'OTAN qu'il a jugé obsolète.
Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé hier l'interdiction des ordinateurs portables et des tablettes dans les cabines d'avion sur les vols directs en provenance de pays arabes et de la Turquie. Ils ont parlé d'un risque d'attentat terroriste. La France et le Canada ont indiqué qu'ils réfléchissaient à des mesures identiques.
Nommé par Donald Trump à la Cour suprême, le juge conservateur Neil Gorsuch s'est employé hier à convaincre les sénateurs qu'il était libre de toute influence politique sans livrer ses opinions personnelles. Au deuxième jour de son audition, en vue de sa confirmation par le Sénat, le magistrat a même assuré qu'il n'aurait aucune réticence à juger, le cas échéant, le président Trump. « Personne n'est au-dessus de la loi », a dit M. Gorsuch, qui, ayant été nommé à vie à l'âge de 49 ans, pourrait siéger à la Cour suprême durant des décennies. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Le Maroc va construire une ville industrielle près de Tanger au coût $1 milliard. La cité Mohamed VI accueillera quelques 200 compagnies chinoises et devrait générer environ 100 000 emplois. Rabat vient de signer une convention avec le groupe chinois Haïté et la banque marocaine BMCE pour ériger sur 2000 hectares ce vaste projet qui fait suite à la visite officielle de Mohamed VI à Pékin en mai dernier. L'Égypte vient de recevoir la deuxième tranche d'un prêt de $3 milliards de la Banque mondiale destinée à soutenir son programme économique et social. Le Caire a indiqué que cette deuxième tranche contribuerait notamment à encourager les investissements dans le secteur privé et à soutenir les projets de croissance qui favorisent l'emploi. Leadership féminin en Afrique, l'initiative African Women in Business a été lancée au Africa CEO Forum, rendez-vous annuel qui a pris fin hier à Genève. L'African Media Agency rapporte qu'un panel de femmes leaders a été réuni pour discuter des nombreux obstacles que les femmes doivent surmonter dans leur carrière et les solutions pour mettre un terme aux disparités entre les hommes et les femmes. Les experts estiment que les femmes constituent un peu plus de la moitié de la population africaine, mais on peut participer dans les prises de décisions stratégiques, même si cela évolue.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Côte d'Ivoire a un nouveau sélectionneur.
Ah oui, l'ancien international belge Marc Wilmots a été nommé sélectionneur des éléphants. Selon une annonce de la Fédération ivoirienne de football hier à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara était sur place pour VOA Afrique.
Ils étaient 59 à frapper à la porte de la sélection ivoirienne de football. Et au finish, c'est le belge Marc Wilmots qui a eu les faveurs du comité exécutif de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Sur les raisons qui ont milité pour le technicien belge, on écoute Souri Diabaté, vice-président de la FIF.
C'est quelqu'un qui a quand même fait 3 ans comme adjoint en Belgique et puis 4 ans avec l'équipe nationale. Et nous avons vu sa progression avec l'équipe nationale de Belgique. Comment il a pu faire évoluer cette équipe qui est passée de la 53e place en 2012 à la première place au classement FIFA. On a vu comment il a intégré des jeunes joueurs dans son équipe. Parce que ça, c'est ce que nous recherchons. Parce que nous sommes dans une phase de reconstruction. Il y a des anciens qui sont là, qui vont partir. Il va falloir intégrer des jeunes joueurs dans notre équipe nationale. Et ça, il a réussi en Belgique. Deuxièmement, c'est un ancien footballeur qui a la connaissance d'une compétition de haut niveau.
Marc Wilmots a signé avec la Fédération ivoirienne de football un contrat de 2 ans qui prend effet le 1er avril prochain. Sa mission, redonner confiance aux éléphants après la débâcle à la dernière CAN. Sur les priorités du nouveau sélectionneur, les précisions de Souri Diabaté.
La première, c'est d'abord au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Nous avons fait 3 Coupes du Monde de suite. Nous aimerions bien faire une 4e Coupe du Monde. Nous sommes aujourd'hui premiers de notre poule. Et nous allons en août prochain rencontrer le Gabon en aller et retour. Donc pour nous, il est important que nous puissions nous qualifier pour la Coupe du Monde. Pour le football ivoirien, pour le niveau que nous avons, pour la génération que nous avons aujourd'hui que nous sommes en train de bâtir, parce que ces grands rendez-vous vous donnent beaucoup plus d'enseignements. Deuxième objectif, c'est la qualification pour la CAN 2019, dont les premiers matchs commencent déjà en juin. Nous sommes dans la poule avec la Guinée, la Centrafrique et le Rwanda. Donc pour nous, il faut que nous soyons présents à cette CAN, parce que cette CAN 2019 va nous permettre de bien préparer la CAN 2021.
Ce mercredi, Marc Wilmots sera face aux journalistes pour sa première conférence de presse. Il se rendra ensuite à Paris en vue d'assister au match amical prévu le 27 mars entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions du Sénégal. Le Belge succède au Français Henri Dussuyer qui a jeté l'éponge après l'élimination de la Côte d'Ivoire au premier tour de la CAN 2017 récemment au Gabon. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Un champion du monde allemand vient tenter l'aventure aux États-Unis.
L'ancien capitaine de l'Allemagne, Bastian Schweinsteiger, a signé en faveur des Chicago Fire. Il va donc quitter Manchester United pour rejoindre la MLS, le championnat nord-américain de football. Le champion du monde 2014, avec 121 sélections et 24 buts, âgé de 32 ans, est en attente de visa. Il devrait se rendre aux États-Unis la semaine prochaine pour passer la visite médicale et signer son contrat, précise le Chicago Tribune sur son site internet. Enfin, la NBA, le championnat de basket nord-américain. Les résultats de la nuit avec vous, Idrissa.
Chicago et Toronto 120-122, Détroit et Brooklyn Nets 96-98, Phoenix et Miami 97-112, Memphis et la Nouvelle-Orléans 82-95, Golden State Warriors et Dallas 112-87.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la situation sécuritaire au Kasaï inquiète après la diffusion de vidéos choquantes sur des massacres présumés par l'armée congolaise ou la découverte de fosses communes. Des arrestations ont eu lieu. Deux enquêteurs de l'ONU ont aussi disparu dans la région où le groupe Kamuina Nsapu sévit. De passage à Washington, Lambert Mende est passé dans les studios de VOA Afrique pour faire le point sur la situation dans le centre de la RDC. Nicolas Pino a tendu son micro au porte-parole du gouvernement congolais.
Je vais vous dire d'abord que nous avons eu difficile à croire ce que nous voyons dans ces vidéos. Mais par mesure de précaution, le président de la République a décidé d'envoyer de hauts magistrats militaires dans la région pour voir si des choses n'ont pas été cachées à leurs collègues. Et d'après les nouvelles que nous avons reçues, ces magistrats ont travaillé très professionnellement et ont abouti à la conclusion qu'il y avait du vrai dans ces vidéos, et ils ont pris toutes les mesures qui s'imposaient. Je voudrais donc saluer le professionnalisme de la justice militaire congolaise qui a procédé à toutes les interpellations des personnes impliquées dans cette vidéo, qui comparaissent maintenant en justice. Maintenant, vous permettrez que le porte-parole du gouvernement s'abstienne de commenter une affaire qui est en train d'être jugée.
Que répondez-vous aux organisations de la société civile, notamment l'ASADO, qui critiquent l'indépendance de cette commission d'enquête qui est parti dans le Kasaï, enquêté sur ces vidéos et enquêté sur les fosses communes? Que leur répondez-vous?
Alors on se demande pourquoi est-ce qu'on a arrêté ces gens s'il n'y avait pas indépendance, s'il n'y avait pas professionnalisme. Comment on aurait pu arriver à arrêter des personnes? Je pense que la justice a prouvé son professionnalisme et je pense que le monde entier reconnaît le professionnalisme et la qualité du travail de la justice militaire congolaise. Il ne faut pas que l'ASADO puisse ramer à contre-courant d'une opinion si répandue sur la crédibilité de la justice militaire congolaise.
Et concernant l'existence de fosses communes, vous confirmez leur découverte?
Oui, on a parlé de 3 fosses communes, il y a plusieurs fosses communes. Nous avons appris que certaines ont été le fait de ces terroristes qui agissaient sous le label de Kamuina Nsapu et qui voulaient cacher les corps de leurs propres adeptes parce qu'ils voulaient apporter la preuve à ceux qu'ils voulaient recruter de leur invulnérabilité. Mais là aussi, il faut que la justice nous le confirme ou qu'il l'infirme ou qu'il dise que d'autres responsables de ces fosses communes existent et nous faisons confiance vraiment à la justice militaire et rien ne nous indique jusqu'à présent que cette confiance soit mal placée.
Certains estiment que Kinshasa surestime la menace de Kamuina Nsapu, notamment en parlant d'enfants armés de bâtons. Vous, quelle est la réponse de Kinshasa sur ce groupe Kamuina Nsapu?
Lorsque le professeur Boshab, qui était à ce moment-là ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Kananga il y a quelques mois, il a procédé à la décoration à titre posthume et à l'enterrement d'une 30aine de policiers. Si un groupe qui tue 30 policiers n'est pas une préoccupation pour un gouvernement, je ne sais pas ce que ce serait. Même ici aux États-Unis, quelqu'un qui tue 30 policiers, c'est un danger majeur. Je pense que beaucoup de policiers sont morts, 4 agents de la CNI ont été tués, d'autres policiers ont été décapité dans la province du Kasaï oriental et dans la province du Sankuru, qui est la mienne. Donc il ne faut pas politiser des phénomènes criminels comme cela. C'est très dangereux de vouloir donner l'impression que le terrorisme n'est pas un mal, parce qu'on n'est pas au pouvoir et que l'on veut jouer du fait qu'on est dans une association proche de l'opposition pour un peu discréditer les thèses du gouvernement. Nous avons affaire à un phénomène criminel de grande ampleur et nous devons le traiter comme tel.
Donc vous dites que la réponse des FRDC est proportionnée à la menace?
Oui, si la réponse n'est pas proportionnelle à la menace, il faut nous le prouver. Parce que nous avons enterré des dizaines de policiers. Je ne sais pas si ce n'est pas une menace sérieuse. Que quelqu'un puisse tuer 30 policiers, ne pas le prendre au sérieux, c'est vraiment faire preuve d'irresponsabilité.
Dans les studios de VOA Afrique, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
Dans Washington Forum, ce jeudi 23 mars, on décrypte la situation tendue dans le Kasaï, cette région du centre de la République démocratique du Congo. Les violences y ont fait au moins 400 morts depuis septembre 2016 et plusieurs vidéos montrant des militaires congolais abattre des civils enveniment la situation. Dans la même province, deux experts onusiens et leurs quatre accompagnateurs congolais ont été enlevés depuis le 11 mars et on est toujours sans nouvelles. Alors que se passe-t-il réellement au Kasaï? Comment Kinshasa gère-t-il ce dossier épineux? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Au Sénégal, l'usage des réseaux sociaux est en pleine mutation, plus que de simples plateformes de distraction. Facebook, WhatsApp et autres sont devenus de véritables moyens de sensibilisation et d'action sociale. Le point avec Seydina Abagué, notre correspondant à Dakar.
À Dakar, des jeunes étudiants ont choisi les réseaux sociaux pour former une structure d'entraide. Fabore Cissé, membre fondateur de l'association Diapo Diapole, explique leur mode de fonctionnement.
Au Sénégal, la communication coûte excessivement cher. C'est pourquoi on a l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, à savoir WhatsApp, Facebook, etc. pour communiquer. On utilise ça pour convoquer les réunions, pour des débats d'idées aussi, parce qu'on peut avoir des idées. On se dit, eh ben, avant de se voir, on peut déjà y réfléchir. Ici, au niveau de cette plateforme, WhatsApp, on en parle, on en discute et puis on essaie de voir quelles sont les meilleures solutions aux problèmes.
Formée à partir des réseaux sociaux, l'association Diapo Diapole a développé une véritable chaîne de solidarité.
C'est une œuvre sociale. On aide les gens, les enfants les plus démunis. Ceux qui n'ont pas de toit, on essaie de leur trouver un toit. Même dans les écoles. Nous trouvons des gens qui ne parviennent pas à satisfaire leur scolarité. Et ben, dans ce cadre-là, dans ce sens-là, on les aide à payer leur scolarité, avoir des fournitures, des cahiers, etc.
Dans le même registre, des femmes leaders ont créé une campagne sur Facebook pour collecter 200 millions de francs CFA en faveur des malades du cancer. Awasek Sissoko en est l'une des initiatrices.
On a fait un groupe privé, on s'est bien concerté. C'est avec nos propres moyens. Par exemple, moi, si je me déplace avec ma voiture, les rendez-vous, le téléphone, c'est mon téléphone. Donc, parce que c'est un élan de solidarité, ça veut dire que chacun donne ce qu'il a. Et donc, on a fait un plan de campagne. Ce sont les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus viral, on touche beaucoup plus de monde.
En quelques mois, cette initiative citoyenne partie des réseaux sociaux a déjà porté ses fruits.
Et vraiment, on est vraiment content parce que les Sénégalais se sont vite sentis concernés parce que le cancer touche presque maintenant, c'est vraiment un fléau et il faut vraiment aller à l'hôpital pour s'en rendre compte.
Au Sénégal, les réseaux sociaux sont devenus un moyen de communication de masse pour les acteurs de la vie sociale. Au-delà du caractère ludique, ils sont utilisés pour alerter l'opinion publique et mener des actions en faveur des nécessiteux. Seydina Abagué, à Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
La République d'Haïti a finalement un gouvernement un mois et demi après l'entrée en fonction du président Jovenel Moïse. Un premier ministre a été investi hier suite à sa ratification par les deux chambres du Parlement. Gaby Dorcil a suivi le processus.
Jacques-Guy Lafontan, médecin de profession, est un novice en politique réputé proche de Jovenel Moïse. À la surprise de plus d'un, il a réuni une majorité au Sénat avant de sortir victorieux tôt hier matin à la Chambre basse, après une séance marathon de plus de 19 heures. Le député Gary Bodo, questeur et leader du bloc majoritaire à la Chambre, explique pourquoi.
D'abord, il faut dire qu'il y a une majorité à la Chambre des députés. Vous savez qu'il y a 5 blocs au niveau de la Chambre basse. Il y a eu une rencontre historique au niveau du Palais national où les différents dirigeants du bloc majoritaire ont eu à rencontrer le président de la République, le Premier ministre et le cabinet ministériel. On a pu trouver un accord sur nos différents désaccords. C'est ce qui a permis, si vous voulez, ce vote. Il y a aussi le secteur privé haïtien, il y a aussi le secteur informel également. Donc tout ce beau monde et tous ces secteurs de la vie nationale également ont eu à rencontrer le bloc majoritaire pour discuter de la nécessité de confirmer le Premier ministre. Donc il a fallu doter le pays de gouvernement et c'est ce qui a été fait.
103 députés sur 119 ont voté, 95 pour, 6 contre et 2 abstentions. Sinal Bertrand de la mouvance Lavalas de l'ex-président Aristide est l'un de ceux qui n'ont pas soutenu le docteur Lafontaine.
J'étais membre de la commission chargée d'enquêter sur les pièces du Premier ministre. On a enquêté sur les dossiers de passeport. Le Premier ministre a passé 7 ans sans passeport. Il n'a pas présenté aucun passeport de 1990 à 1997. Et pourtant, il a étudié, il a fait des spécialités. Par exemple, il a été en France, à Montréal, il a été aussi en Martinique. Il n'a pas payé les taxes. Il devrait être sanctionné. Par exemple, il n'a pas payé patente contre médecin. Il n'a pas payé la déclaration définitive d'impôt à temps. Il n'a pas payé l'impôt locatif, etc. Eh bien, le Premier ministre n'est pas éligible.
Face à une situation économique très précaire, inflation de plus de 14% et chute vertigineuse de la gourde, la monnaie nationale, le nouveau Premier ministre prône une rigueur budgétaire. Il a pourtant multiplié les promesses aux parlementaires afin d'éviter un échec que d'aucuns croyaient possible il y a seulement 2 semaines.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'Université de la Californie du Sud accueille chaque année le Sommet africain sur l'économie et le développement. Cet événement réunit des dirigeants, experts et membres du gouvernement pour échanger avec leurs homologues aux États-Unis. Cette année, tous les participants africains à cette conférence ont été privés de visa. Reportage à Los Angeles de Michel Quinn, présenté par Claire Morin-Gibourg.
Le sommet économique africain est généralement une occasion pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise d'enrichir leur réseau pour renforcer les échanges entre les États-Unis et l'Afrique. Cette année, l'organisatrice de l'événement, Marie Flowers, est très déçue.
Habituellement, 40% des personnes que nous invitons n'obtiennent pas de visa. Cette année, 100% des gens ont été rejetés. Aucune délégation de pays ne peut venir. C'est triste et décourageant.
C'est la 4e édition que Marie Flowers organise, mais cette année, aucune ambassade américaine n'a délivré de visa à la centaine de personnes qui devaient venir de Sierra Leone, de Guinée, du Ghana, du Nigeria, de l'Éthiopie ou d'Afrique du Sud. Marie Flowers ne cache pas sa déception.
Ce genre de choses rend la situation très difficile et il est quasiment impossible pour nous de travailler.
Elle n'a aucune idée pourquoi les visas ont été systématiquement refusés cette année. Mais elle soupçonne que les décrets migratoires de la nouvelle administration Trump ont rendu la situation encore plus compliquée. Elle a interpellé plusieurs avocats et législateurs, y compris l'ex-députée Diane Watson.
Il y a des ambassadeurs qui étaient censés venir à ce sommet et qui ont été privés de visa. Leurs demandes de visa ont été rejetées. Comme vous le savez, sous l'administration actuelle, ils limitent le nombre de personnes venant du continent africain vers les États-Unis. Ils leur refusent les visas.
Madame Watson affirme avoir contacté le département d'État pour obtenir des informations, mais le département d'État n'est pas autorisé à discuter au cas par cas. Mais dans le monde entier, des témoignages font état de refus de visa par les autorités américaines, même s'il est difficile de vérifier toutes ces informations avec certitude. Les données du département d'État ne sont disponibles que jusqu'à l'automne 2016. Nous retrouvons Marie Flowers.
Je dois dire que la plupart d'entre nous estimons que c'est une discrimination faite aux Africains. Nous en avons fait l'expérience à plusieurs reprises. Les personnes rejetées sont des hommes d'affaires qui ont des liens avec le continent.
Beaucoup de personnes espéraient faire des affaires lors de cette conférence, mais peu d'activité a eu lieu cette année. Les organisateurs espèrent ne pas avoir à jeter l'éponge. Le décret migratoire de Donald Trump ne s'applique qu'aux 3 pays africains, la Libye, la Somalie et le Soudan. Il est encore difficile de savoir pourquoi les refus de visa ont été multipliés sur le continent.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 3140, vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.